Vous êtes sur RTL.
Plus.
RTL Soir, il est 18h50, c'est leur choix, Thomas Soto.
C'est leur choix, avec ce soir Catherine Boulay, bonsoir Catherine. Bonsoir. Avec ce soir Christian Ménanteau, bonsoir Christian.
Bonsoir Thomas.
Et avec ce soir, en exclusivité mondiale, tout le monde le voulait, mais il est chez nous, c'est Laurent Marsic.
Bonsoir.
Bonsoir et bienvenue Laurent. Bonsoir. Alors on va commencer par parler du monde avec vous Catherine. Et ça fait presque une semaine que Aboubakar al-Baghdadi, le chef de l'organisation État islamique, est mort. D'ailleurs, l'EI a reconnu aujourd'hui que son chef avait bien été tué dans ce raid américain. Mais voilà que des militaires américains de très haut prennent leur distance avec le récit qu'en a fait Donald Trump.
Oui, vous l'avez peut-être encore en tête, cette conférence hollywoodienne donnée par Donald Trump. Pendant 50 minutes, le président américain a déroulé le film des opérations. Un film dans lequel, bien sûr, Aboubakar al-Baghdadi tenait le mauvais rôle.
Il est mort après avoir couru dans un tunnel sans issue, gémissant, pleurant et criant sur tout le chemin.
Mais au moment où Trump prononçait ces mots, rapporte la presse américaine, eh bien certains hauts gradés du Pentagone se seraient échangés des textos. Mais où est-ce qu'il est allé chercher ça? Alors, quand le chef du commandement central américain a donné sa conférence de presse hier, un journaliste lui a donc demandé de préciser. Al-Baghdadi est-il vraiment mort en gémissant et en pleurant? Écoutez la réponse de Kenneth McKenzie.
Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'est réfugié dans un trou avec deux jeunes enfants et qu'il s'est fait exploser pendant que ses hommes se battaient au sol, ce qui en dit long sur le genre d'homme qu'il était. Ça, c'est la conclusion que j'en tire moi. Je ne suis pas en mesure de vous confirmer quoi que ce soit d'autre sur ces dernières secondes. Je ne peux pas vous le confirmer dans un sens ou dans l'autre.
Exercice compliqué pour un militaire, là, quand même. Hein, de dire ce qu'a dit le patron n'est pas complètement la vérité.
Sans le désavouer. C'est assez clair. Ensuite, la question, elle a été posée au secrétaire d'État à la Défense, Mark Esper, qui a également botté en touche. Puis, également, à un autre très haut gradé du Pentagone, Mark Milley.
Le président Trump a décrit al-Baghdadi gémissant et pleurant avant de mourir. Pouvez-vous nous décrire ce moment plus en détail?
Le secrétaire d'État s'est vu poser la même question hier. Je sais que le président avait prévu de parler aux unités sur le terrain, mais je ne sais pas quelle était sa source. Mais je suppose que c'est en parlant aux hommes du commando sur le terrain.
Il suppose, mais c'est peu probable. Ce qu'il est plus, en revanche, c'est que Donald Trump ait rajouté un peu de piment à cette conférence de presse pour dégrader al-Baghdadi, comme il le fait toujours avec n'importe quel adversaire.
Ouais, mort comme un lâche, comme un chien, il pleurait, etc. Chien, tout ça, c'est peut-être seulement dans la tête de Donald Trump.
C'est verbal.
C'est voilà. Verbal, oui. Voilà. Je me tourne vers un autre genre de guerre un peu moins dangereux quand même.
Oui,
c'est
la
guerre de la vidéo à la demande qui est ouverte, Christian Ménanteau. Combat qui s'annonce brutal pour autant.
Oui, absolument.
Économiquement brutal.
Oui, oui. Et à compter de demain et dans les semaines qui viennent, eh bien, ils seront quatre poids lourds des médias à chasser le scalp de Netflix. Vous savez, c'est le pionnier de la télé à la demande. Qui actuellement surfe sur ce marché qui est en plein boom, qui compte déjà plus d'un milliard d'abonnés. Alors la bande des quatre, c'est tout simplement Apple TV, Disney, HBO Max et Amazon Prime, sans oublier quelques poids moyens aux grandes ambitions, aux couteaux bien sûr très affûtés, qui sont eux aussi prêts à ramasser les miettes.
Bon, et quelles sont leurs armes alors?
Pour avoir la peau de Netflix, il faut remporter au moins deux combats. Le premier, c'est celui de l'offre, bien sûr, qualité et diversité des contenus. Et puis le second, c'est le prix. Alors, Apple Télé dispose, et qui est disponible dès demain, donc, dispose d'abord, on le sait, de très peu de programmes. Donc, il est faible là-dessus. Il va donc attaquer sur quoi? Sur les prix. Et l'abonnement sera à moins de $5 par mois, ce qui est vraiment pas cher. Disney, lui, en revanche, super costaud sur les contenus, dessins animés, les séries, Grey's Anatomy, les films, les Star Wars et compagnie. Tout ça, il va donc jouer en plus sur la facture. Deux fois moins cher que Netflix. Reste HBO, alors là, c'est la puissance du géant des télécoms, AT&T, et toutes les productions de la Warner.
Je vous arrête, il y aura de la place pour tout le monde, là, ou pas?
Ça, c'est la grande question. Quand vous attaquez le caïd du secteur, y a fortement des risques. Le principal, c'est la capacité d'attention du public, parce qu'elle n'est pas extensible à l'infini, donc ils vont faire des choix. Et donc, on va très vite compter les premiers cadavres. Regardez Sony, aussi balèze qu'il soit, il vient de quitter l'arène.
Et ben voilà. Et il y aura Salto bientôt. C'est le français qui regroupe TF1, M6, France Télévisions.
Absolument, fait partie des outsiders.
Au lieu de regarder les écrans comme ça, écoutez plutôt Laurent Marcy qui nous emmène à une expo cinématique de Paris. Pas obligé de le balancer, c'est jusqu'au 19 janvier, Laurent. Une expo un peu particulière qui est consacrée à Dracula, c'est ça? Vous avez visité cette expo et ça, vous n'avez pas tourné de l'œil?
Alors, pourtant, il y a de quoi. Alors, je préviens, on va faire déjà très simple. c'est à pas mettre devant tous les yeux. Pour moi, moins de 10 ans, c'est non. Les autres, c'est
d'accord.
Oui. Ils ont construit ça comme un dialogue. C'est un dialogue entre le cinéma, l'art, la littérature. Je vais vous emmener. On va y aller avec Mathieu Orléans, qui est le commissaire de cette exposition.
Comme le cinéma est quand même le fil rouge de l'exposition, dès le début...
Je suis fait de chair et de sang, mais je ne suis pas humain.
On est dans le cinéma dès à présent. On a des extraits, on a des projections, on a les ombres du Nosferatu. Et voilà, le cinéma dialogue perpétuellement avec les arts. Ici, plutôt avec la littérature, et puis plus tard, avec d'autres formes de peinture, de sculpture, de photos.
Au départ, on est d'accord, c'est de la littérature.
Exactement. 1897, sous la plume de Bram Stoker, un Britannique, Bobarjo, c'est lui qui va façonner le personnage de Dracula et dont le cinéma va s'emparer très tôt. 1922, pour le Nosferatu de Murnau, il en parlait à l'instant, pas moins de 260 films sur Dracula depuis les années 20 quand même. On est avec Nosferatu.
J'en ai raté quelques-uns. Ouais,
moi aussi quelques-uns. On va rester avec Nosferatu parce que dans les vitrines se trouvent, et là c'est juste incroyable, tous les accessoires de l'autre Nosferatu, 1979, avec Isabelle Adjani et Klaus Kinski.
On a tous les accessoires du film qui sont conservés, de la robe de chambre d'Isabelle Adjani, teintée de sang, au rat empaillé en passant par les crânes, le violon, les costumes. Donc c'est une archive extrêmement rare et extrêmement belle.
Pardon. Et donc, on va progresser. On va arriver avec Bela Lugosi, qui, alors, lui, a été habité par son rôle parce qu'il s'est pris pour Dracula jusqu'à la fin de sa vie.
Aren't you drinking? I never drink. Why?
Ça, c'est Bela Lugosi. Buvez-vous du vin? Je n'ai jamais bu.
Il boit du sang.
Il paraît qu'il dormait dans un cercueil, mais ouais. Il buvait pas de sang quand même.
Alors, le cercueil. C'est vrai, comme lit, le sang, non. Mais il a quand même été enterré avec la cape de Dracula.
Si ça l'a,
comme
si
quoi,
ça
c'est allé quand même très très loin. Vous découvrirez plein d'autres choses. Il y a des Goya, il y a un Basquiat, il y a du Niki de Saint-Phalle, il y a du Warhol. Et puis on termine toute cette expo avec quelque chose que vous connaissez tous.
Buffy
contre les vampires.
Contre
parce
les
que
vampires.
La télé, elle a réinventé le vampire,
ah ouais.
Qui désormais est cool et qui est pop.
Vous m'avez dit qu'il y avait des rats morts aussi.
Oui, exactement. Dans le Nosferatu, vous verrez, dans la vitrine, il y a plein de rats crevés qui sont alignés.
Vous avez fait des cauchemars après ?
Il faut y aller doucement avec les enfants.
Catherine veut flinguer l'expo.
Moins de 10 ans, vous n'y allez pas. Les autres, c'est la Cinémathèque de Paris jusqu'au 19 janvier. Et ben, on est bien dans l'ambiance Halloween. Merci Laurent et merci à tous.